trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
À qui attribuez-vous ces qualités ou défauts aux hommes ou aux femmes ? Être scientifique.
Un homme.
Être littéraire.
Oh, la femme.
Vous ne pensez pas qu'une femme puisse être pompier ?
Non, je pense que oui.
On s'aperçoit qu'à l'école, quotidiennement, par une foule de petits mécanismes, des différences, garçons-filles, sont fabriquées.
Et est-ce que tu penses qu'une femme, elle peut réparer une voiture ?
Tout petit peu.
Un garçon qui joue à la poupée, bon, ça reste encore problématique.
Faut aider les gens à transgresser. Vraiment montrer que oui, ils peuvent faire ça, c'est pas grave. Il y a pas de problème.
Divergence FM.
Qu'un garçon qui fait ça, il va pas se transformer en fille, et qu'une fille qui fait ça, elle se transforme pas en garçon.
93.9.
Et oui, les jingles maison de Divergence. Je vous rappelle que vous êtes sur Vendredi Théâtre. Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de théâtre, qui assiste au spectacle et qui essaye d'explorer toute l'actualité théâtrale toutes les semaines. Grazia nous a rejoint. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un spectacle qui se déroule au Théâtre des 13 Vents. Il s'agit de Solness, le constructeur, de Henrik Ibsen. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Agathe L'Huillier. Bonjour.
Bonjour.
Et Vladimir Jordan. Bonjour.
Bonjour, non ?
ça va faire plaisir à Grazia.
Bonjour. Va bien.
Allez, grazie.
Alors, tout le monde a vu le spectacle dans le plateau. Solness le constructeur, c'est une pièce d'Henrik Ibsen. Pour ceux qui ne connaissent pas Henrik Ibsen, c'est un écrivain norvégien qui vivait au 19e siècle, qui est né en 1828 et mort en 1906, si je ne m'abuse. Et Solness le constructeur, c'est plutôt une pièce sur la fin de la carrière d'écrivain de Ibsen. C'est une pièce qu'il a écrite en 1892. Alors, le thème un petit peu de cette pièce de Ibsen. Ce qu'il arrive, quand il écrit cette pièce, il revient de 20 ans d'exil et il rejoint son pays où il est consacré vraiment comme un grand auteur dramatique. Et en même temps, il y a une nouvelle génération qui arrive d'écrivains et qui le conteste un petit peu. Et on retrouve un petit peu ce thème dans la pièce, c'est-à-dire la personne consacrée et qui a un petit peu peur de la nouvelle génération qui arrive.
Oui, l'homme mûr est confirmé, adulé, qui a peur d'être déposé par la jeunesse. On sait qu'Ibsen allait assister assez souvent à des conférences de jeunes auteurs dont il savait qu'il serait la cible, en particulier Knut Hamsun. Il s'est mis au premier rang et il s'est fait bien critiquer, direct, les yeux dans les yeux. Il est resté consciencieusement assis, il est sorti, il a dit... Et puis voilà, il avait... Dans son bureau de travail, Ibsen avait le portrait de son ennemi préféré, Strindberg. Alors on ne sait pas s'il écrivait en disant « je ne t'en veux pas » ou s'il écrivait en disant « tiens, regarde ce que je suis capable d'écrire encore ». Ça, c'est une autre histoire. C'est un malicieux, Ibsen, je pense. C'est un malicieux profond.
Knut Hamsun, on va rappeler que c'est l'auteur de La Fin, oui. Si je ne me trompe. Alors je disais donc, tout le monde a vu le spectacle. Qui veut commencer à intervenir ? Tito, tu es le plus près du micro.
J'arrive. Alors, moi, j'ai vu aussi, il y a le rapport entre les hommes et les femmes, mais aussi la question du vieillissement aussi dans le rapport à l'autre, hein, et dans le rapport amoureux. Voilà, je ne sais pas très bien comment poser la question, mais le personnage, cette jeune fille qui apparaît, elle ne représente pas forcément uniquement cette dichotomie entre son succès et... C'est plus compliqué que ça. Mais en même temps, elle est là pour lui rappeler qu'il est encore capable de faire quelque chose.
Oui, c'est-à-dire que Ibsen s'arrange pour créer un certain nombre de fausses pistes dans cette pièce... De manière à ce que la maladie dont on dit que Solness souffre pour un architecte constructeur, qui est une maladie contradictoire, c'est-à-dire qu'il souffre de vertige, de manière à ce que ce soit le spectateur qui ait le vertige. C'est comme ça qu'elle est construite, la pièce. C'est-à-dire qu'un certain nombre de fausses pistes s'accumulent les unes aux autres, y compris celles dont on croit qu'elle est centrale, c'est-à-dire qu'elle vient pour réclamer quelque chose qui lui aurait été promis quand elle avait 13 ans, qu'il l'aurait embrassé, renversé et embrassé de nombreuses fois. Donc on se dit, mon Dieu, dans quoi on rentre, dans quelle Et puis en fait, c'est remis en doute au fur et à mesure de la pièce. Ça, est-ce que vous pensez vraiment que c'est arrivé ? Est-ce que c'est pas vous qui avez une illusion qui s'est enracinée en vous, un rêve ? Et donc la succession de ces fausses pistes crée quelque chose qui est de l'ordre plutôt de qu'est-ce que la mémoire peut, en quoi la mémoire est fidèle et qu'est-ce que la mémoire peut nous permettre, sur quoi on peut créer des fondations. Si la mémoire est juste, on a des fondations solides. Si la mémoire est fausse, si elle est si elle nous joue des tours, si on a décidé que on souffrait pour quelque chose mais qu'on laisse celui qui est à côté de nous croire qu'on souffre d'autre chose, ça crée des troubles de mémoire, ça crée des troubles de... Il n'y a pas de fondation, quoi. L'histoire des poupées, par exemple, c'est aussi une histoire de mémoire. Il croit que sa femme souffre de la perte des enfants dans un incendie. On apprend très tard que ce dont elle souffre, c'est que ses poupées ont été brûlées. C'est un... c'est même plus un malentendu. C'est une vie brisée pour des riens. Simplement pour le silence et la mémoire. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais si. Je suis parti dans...
C'est vrai que c'est une pièce extrêmement riche, il y a plein de thèmes et des fausses pistes, comme vous le disiez. C'est une pièce en 3 actes. Moi, j'ai l'impression que le chiffre 3, il revient tout le temps aussi. Donc, il y a 3 actes, il y a 3 maisons, il y a 3 chambres pour les enfants. Les poupées sont 3 fois 3.
Trois femmes.
Il construit 3 types d'habitations. C'est-à-dire des églises, des
foyers pour les humains.
Des foyers pour les humains et peut-être des châteaux...
Dans les airs.
Dans les airs.
Ça, voilà.
Est-ce que je me trompe si je dis que ce chiffre 3, il est un peu central ?
Oui, non, vous ne vous trompez pas, mais en même temps, il ne faut pas penser que Ibsen fasse des choses, de l'ordre kabbalistique, ou je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas une symbolique particulière, c'est en même temps... quelque chose qui permet de se dire que Ibsen était lui-même un constructeur très minutieux. Ses pièces sont construites avec une précision diabolique. Beaucoup de metteurs en scène norvégiens qui les montrent souvent, moi j'ai lu pas mal de textes traduits, disent que quand on se laisse aller ou quand un metteur en scène laisse les acteurs, quelle que soit leur capacité d'acteur, prendre en charge la mise en scène, très vite on arrive à un état d'anarchie totale parce que chacun veut jouer quelque chose et ça ne colle pas. Il faut revenir au projet initial de l'écriture qui est une minutie mathématique. Nous, on s'est accroché à ça, c'est-à-dire la ponctuation, les tirets. Il y a une chose très particulière dans l'écriture d'Ibsen, c'est qu'il ne met jamais de point de suspension, il met des tirets. Et ces tirets, c'est le contraire des points de suspension chez Tchekhov, son contemporain. Parce que l'écriture de Tchekhov fonctionne sur des possibilités de vouloir dire quelque chose, puis on ne le dit pas, on est à la périphérie des choses. Et le tiret, lui, c'est une chose abrupte, c'est-à-dire on dit quelque chose et en plein milieu, on dit autre chose pour arriver à l'essentiel.
Je vais me tourner vers Agathe, donc vous êtes l'une des 3 femmes de la pièce.
Oui.
Quel rôle jouez-vous exactement ?
Alors, je joue le rôle d'une jeune femme qui s'appelle Kaya Fostli, qui est au service de Solness, le constructeur. C'est elle qui tient les registres. Elle a un lien fort avec les autres membres du cabinet. Elle est la cousine et la fiancée de Ragnar, un jeune homme qui voudrait, on le comprend au fur et à mesure de la pièce, travailler à son compte.
Qui représente la jeune génération, en fait.
Oui, exactement. Et elle est la nièce de Brovik, qui est le vieux qui a tout appris à Solness, je peux dire tout appris, oui.
Ouais.
Enfin bon, qui lui a mis le pied à l'étrier. Voilà, donc on travaille tous dans son cabinet.
Et donc le vieil architecte est joué par Michel Robin.
Je tiens à signaler.
Extraordinaire, ouais. Michel Robin.
Oui, tout à fait, on peut dire ça.
Et en fait, Solness, il a fait vis-à-vis de lui ce qu'il a peur que le nouvel architecte fasse.
C'est pour ça qu'il en a peur, parce qu'il sait qu'il a usurpé. Donc on le sait bien, y compris en politique, les usurpateurs n'ont qu'une peur, c'est d'être usurpés eux-mêmes. On le voit, je veux dire, quand il y a une illégitimité, il y a une peur.
Oui.
Qui veut intervenir maintenant ?
C'est juste un petit
oui, vas-y Tito.
Parce que ces histoires de 3, juste revenir là très rapidement. C'est vrai qu'il y a une lourde tendance pour aller chercher des trucs kabbalistiques et des symboliques et des trucs comme ça. Moi, je suis plutôt d'opinion que toutes ces choses-là sont très conscients, mais aussi ça fonctionne parce que ça fonctionne bien inconsciemment. C'est-à-dire que si on construit ça en trois, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à ce moment-là. Par exemple, une voie du milieu, une troisième voie, etc. Et ça, c'est présent dans la pièce. C'est-à-dire les choses sont ni noires, ne sont pas que noir et blanc. Il y a un avenir, il y a une autre chose qu'on pourrait faire. Il y avait aussi visiblement quelque chose en parallèle qui se passait à sa vie, à lui. Hein? La vie de cette fille qui arrive 10 ans après, pendant ces 10 ans après, des ans, il y avait quelque chose qui s'est passé en troisième plan. Mm-hmm. Hein? Voilà, c'est juste pour faire...
voilà. Gradia, Christopher ? Allez, Gradia.
Voilà, donc moi, cette pièce m'a fait réfléchir sur le concept de risque. Comment Solness prend quand même aime le risque. Il prend le risque de monter donc sur la tour, tout en sachant qu'il ne peut pas, qu'il risque gros. Et d'un autre côté, la jeune fille, celle qui le pousse à monter sur...
Hilda.
Comment ?
Hilde, elle aime le risque, elle adore le risque. Et donc, est-ce que le risque, ce n'est pas un élément propre à la jeunesse ? Est-ce que quand on est vieux, quand on arrive à un certain moment de la vie et qu'on imagine qu'on peut aller vraiment construire des châteaux dans l'air ? En italien, on dit Castellinaria, comme ici, on dirait, nous, comme en France, on dirait château en Espagne.
Mais on a choisi la traduction château dans les airs. Je ne savais pas que ça existait en italien.
Castellinaria.
En Espagne, ça raconte, c'est un petit peu autre
c'est
chose
pas la même
aussi.
Chose. Ouais, c'est pas la même chose.
Une connotation, l'oncle du Pérou, enfin je sais pas quoi, il y a quelque chose de...
Parce que Castellinaria, c'est aller prendre vraiment un grand risque pour construire quelque chose qui probablement n'aboutira pas. Ouais. Donc ça m'a fait réfléchir sur le risque. Est-ce que quand on est jeune, on prend le risque ? La liberté, c'est aussi le risque d'affronter les choses. Et quand on a un certain âge et qu'on laisse un chemin qu'on connaît bien, on paye peut-être un prix au risque qui est beaucoup plus...
Bah oui, mais c'est-à-dire que Solness, lui en plus, il a construit tout ce qu'il a construit à l'époque où il était jeune. Il l'a construit sur... des usurpations, c'est-à-dire sans fond, il n'y a pas de fondation. Ce qu'il a créé n'a pas de fondation. Son couple est détruit de l'intérieur. Ses architectures sont détruites de l'intérieur parce qu'il pense qu'il ne veut plus construire d'église parce que Dieu lui a pris ses enfants. Il ne veut plus construire de foyer pour les humains parce que les humains n'en veulent pas. Enfin, bon, on pourrait faire une longue liste. Il aboutit à la fin à dire oui à une proposition totalement étrange que lui fait une jeune fille qui lui dit... Nous allons construire ensemble des châteaux dans les airs. Et il répond oui, avec des fondations. Ce qui est absolument incroyable. Mais on sent aussi que la construction machiavélique de Ibsen fait que dans le public, je ne perçois pas de gens qui pourraient dire on ne comprend pas ce que ça veut dire. Or, qu'est-ce que c'est des châteaux dans les airs avec des fondations ? C'est inexplicable. Ça n'a pas de sens.
C'est impossible.
Oui, c'est impossible, c'est du monde onirique, c'est du monde de l'ordre, comment dire, ce n'est, parce qu'on pourrait dire par exemple que ce serait une construction érotique, mais ce n'est pas un éros qui existe entre un homme mûr et une jeune femme, ce n'est pas ça, c'est un château dans les airs avec des fondations.
Avec une jeune femme qui lui propose quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il aurait pu répondre aussi aux avances de vous, mademoiselle,
oui, donc, Kaya,
Kaya, oui, et il ne le fait pas, au contraire, ça l'agace. Donc Solness a envie lui aussi de s'élever. Vers...
Oui, alors là, nous avons beaucoup travaillé avec Alain Françon sur un texte d'un... Oh, ça va être très difficile de dire tout ça, mais un texte d'un psychiatre, neuropsychiatre, philosophe, phénoménologue qui s'appelle Binswanger, qui a fait une thèse entière sur Solness, Ibsen et le problème de l'autoréalisation dans l'art. Et cette dénomination d'autoréalisation dans l'art, ou dans quoi que ce soit, ça peut être autoréalisation dans la Formule 1, enfin, c'est-à-dire, on voit les gens qui ont réussi à s'auto-réaliser dans quelque chose. On voit très bien ce que ça veut dire. Chacun le sait, ça peut être sur une chose simple, une chose compliquée. Et Solness est quelqu'un qui ne peut pas s'auto-réaliser parce que tout est faux. Il est tiré dans un abîme sans fond par sa femme. Dès qu'il veut monter, il a le vertige et il ne sait pas se tenir debout sur terre. Donc, dans le fond, dans la hauteur et sur terre, tout est faux. Et c'est une force de jeunesse qui vient lui réclamer un fantasme adolescent, en plus, qui vient lui dire « Vous m'avez dit à 13 ans que dans 10 ans, vous, je serai votre princesse, je veux mon château. » Et au début, ça lui fait un peu rire, et puis petit à petit, il se dit que la seule solution pour lui, face à tous les mensonges qu'il a créés, c'est de rentrer dans ce monde, comment l'appeler, onirico, symbolico, je ne sais pas quoi. Et il dit oui, au risque de tomber, mais il tombe. Voilà.
Christopher, tu n'es pas encore intervenu.
Je voulais revenir sur l'aspect des fausses pistes distillées par Ibsen. C'est vrai qu'on pourrait voir la pièce comme un personnage qui a une crise de la cinquantaine avec une idylle avec Hilde. On ressent quand même cette tension sexuelle. Mais on voit finalement derrière que Hilde, j'ai l'impression, vient lui ouvrir les yeux sur son présent, sur sa ce qu'il vit au jour le jour. Il ouvre les yeux et il se rend compte peut-être qu'il vit finalement dans un confort de compromis, dans un confort de demi-mesure. Et il y a toujours cet aspect un peu fantasmagorique de Hilde qui lui rappelle qu'il avait été autrefois un bâtisseur de cathédrale. Et je voulais revenir sur le fait qu'il y a toujours ce doute, est-ce que c'est vrai ? Parce que lui-même ne s'en rappelle pas, on voit au début. Et derrière donc un texte qui peut sembler d'une histoire à peu près... normal, on voit que Ibsen va questionner plus profondément quand même à travers des choses assez banales finalement, des questions plus importantes comme le thème du sacrifice, la quête de la vérité, du but. Enfin voilà, j'ai pas de questions particulières là-dessus, je voulais revenir sur cet aspect-là.
Mais il y a une chose absolument extraordinaire qui se passe, enfin, de toute manière, 1892, c'est une époque où, dans toute l'Europe, enfin, dans l'Europe, donc, pratiquement le creuset intellectuel du monde à cette époque-là, les grandes capitales, Berlin, Moscou, Paris, enfin, etc., Vienne surtout, il y a une sorte d'air du temps qui circule et qui va aboutir 4 ans après l'écriture de cette pièce au premier livre de Freud sur les 5 théories de l'hystérie avec Breuer, puis une année après, une nouvelle théorie un petit peu plus affinée de lui tout seul. Or, il se trouve que 4 ans avant, Ibsen, donc, écrit cette pièce, qui est une pièce, comme vous le dites, sur la fonction de vous avez dit, ouvrir les yeux, c'est-à-dire, en analyse, on appelle ça l'anamnèse, c'est-à-dire, tout ce qui a été oublié, on va le faire revenir, le faire ressurgir par la parole. Et c'est ce qui se passe. Tout le deuxième acte, c'est « je vais tout vous dire », et il commence, il raconte, et il redécouvre tout son passé, tout ça pour aboutir à une phrase absolument magique, alors que le mot n'existe pas encore. Il va être créé par Freud en 96, c'est le mot de refoulement. Je ne peux pas le citer en allemand parce que je ne le sais pas. Mais mon personnage dit « Est-ce que ce n'est pas étrange ? Plus j'y pense maintenant, plus il m'apparaît que pendant toutes ces longues années, je n'ai cessé d'être hanté par quelque chose qui revenait sans cesse. Une chose, disons, vécue que je pensais qu'il fallait que j'oublie, mais sur laquelle je n'ai jamais eu prise. » C'est une définition poétique du refoulement. Mmh. C'est-à-dire, je ne le sais plus, mais il est là, il passe son temps à dire « parle de moi, parle de moi », et dès qu'on ouvre la porte, il y a une libération, des symptômes disparaissent, etc. Mmh. C'est magique de savoir que cet homme, Ibsen, lui-même peu diplômé, il n'a même pas eu le bac, enfin l'équivalent norvégien, s'est construit seul, lisait à son chevet des livres relativement... il n'allait pas chercher beaucoup. Enfin, il lisait Kierkegaard, la Bible et les journaux. C'était un peu très ça. Non, mais c'est pas mal aussi de savoir ça. Les journaux. C'est-à-dire qu'il allait chercher des... comment dire, dans les analyses et dans les faits divers, quelque chose d'humain, de fondamentalement trivial, qui se retrouve dans son écriture. Il est à la fois, il peut sortir des phrases aussi brillantes que celle-là, et juste après, une chose très triviale, où un mari dit à sa femme, qui lui reproche de regarder un peu trop de près une autre jeune femme, Elle te plaît, oui, surtout quand on n'y est pas habitué. Alors, il lui balance un truc,
ah ouais,
qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est trivial, totalement trivial.
On va rappeler que la pièce s'appelle Solness, le constructeur. Pourquoi il s'appelle jamais architecte? Il se désigne jamais sous le nom d'architecte, d'ailleurs.
Bah, Agathe.
Parce qu'il dit qu'il n'a pas les diplômes.
Voilà. C'est l'histoire d'Ibsen, en fait.
Absolument, c'est pour ça que j'y pensais. Donc Solness le constructeur, c'est au 13 vents. C'est ce soir, c'est à 20h30 et samedi, c'est à 19h.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.